compagnon de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour vous donner envie de le découvrir à votre retour. Et ce, tranquillement installé chez vous en écoutant la lecture d'extraits choisis par Magali ou Catherine. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà. Et donc aujourd'hui, Catherine, je crois que c'est toi qui as choisi le livre que vous allez présenter.
Oui. En fait, je vous propose de découvrir une histoire familiale. L'autrice Léonore de Recondo nous raconte sa grand-mère, ou plutôt essaie d'imaginer la vie de cette grand-mère dont le destin a basculé le 18 août 1936, il y a donc près de 90 ans.
Effectivement. Et donc, l'autrice, je suis bonheur qu'elle doit avoir des ascendances espagnoles.
Voilà. Mais comment t'as deviné? La date, ça a suffi, t'es fort. Donc, je vais te présenter Éléonore de Recondo. Elle est née à Paris, elle, en 76, dans une famille d'artistes. Sa mère est peintre, son père est sculpteur. Et elle a une... Elle est à la fois musicienne, professionnelle, hein, et écrivaine. Voilà, donc, il y a des gens, ils ont tout. Ah, en plus, elle est belle. Enfin, elle a tout pour
les qualités.
Donc, elle débute le violon à l'âge de 5 ans, développe très tôt une passion pour la musique baroque. Et en tant qu'écrivaine, eh ben, elle est l'autrice de 9 romans. Donc, ce n'est pas non plus qu'un petit passe-temps.
Ah oui,
non,
effectivement, pas... elle est très prolifique. Hein, donc, son premier roman date de 2010. Il s'appelle « La grâce du cyprès blanc ». Et il amorce une exploration intime de la mémoire et du deuil. Elle enchaîne en 2012 avec « Rêves oubliés ». L'année suivante, donc 2013, Pietra Viva, qui nous plonge dans les pensées de Michel-Ange.
Très chouette.
Elle publie en 2015 « Amour », qui obtient le grand prix RTL Lire et prix des libraires. Et à ce sujet, comme on est aussi souvent dans l'actualité, ce roman a inspiré un film qui est sorti en décembre 2025, réalisé par Jérôme Bonnel, qui s'appelle en fait « La décision ». Il a été emballé, lui, par la lecture du roman. Oui. Il a mis plusieurs années avant de... On lui a conseillé de le réaliser, mais il a mis beaucoup de temps pour être à la hauteur du roman.
Passer à côté et du roman et du film.
Mais c'est pas grave, t'auras le plaisir de les retrouver.
Il n'est jamais trop tard. Voilà. Voilà. En 2017, elle publie « Point cardinal » qui aborde la question de l'identité de genre, qui obtient le prix du roman des étudiants France Culture Télérama. Et moi, je me souviens l'avoir découverte à ce moment-là parce qu'elle était venue présenter son livre, donc « Point cardinal » dans une librairie à Blois. Elle écrit ensuite « Manifesto » en 2019 qui évoque les derniers instants de son père dans un dialogue imaginaire. « La leçon de ténèbres » en 2020, « Revenir à toi » en 2021, qui explore les liens familiaux et les silences enfouis. Un peu plus proche de nous, 2023, « Le grand feu » qui transporte le lecteur dans la Venise du XVIIIe siècle, au cœur de la passion musicale et amoureuse d'une jeune violoniste, comme par hasard élève de Vivaldi. Et donc en 2025, ce qu'on vous présente aujourd'hui, « Marcher dans tes pas ».
Eh oui.
Et donc, tu as choisi de nous parler du roman, histoire familiale et politique, certainement.
Et oui, évidemment. Oui, donc 6 ans. Alors, on le voit dans tout ce qu'a dit Magali, quand même, la famille a une grande place dans son écriture. La famille, le deuil,
la mémoire.
La mémoire. Et donc, 6 ans après Manifesto, qui rendait hommage à son père, le sculpteur Félix de Recondo, Léonore de Recondo aborde à nouveau l'histoire de sa famille paternelle, avec ce roman qui aborde la question des origines espagnoles de la famille de l'artiste, exilée sous Franco.
C'est 1936, donc, la guerre civile espagnole.
La guerre civile, exact. Donc ce fameux jour d'août 1936, la guerre civile espagnole éclate, enfin avait déjà éclaté, mais cette grand-mère Henriqueta doit brutalement quitter avec sa famille sa maison d'Irun, disons que là... Ils arrivaient sur Irun et ils avaient un quart d'heure pour quitter toute une vie. Et fuir avec rien ou presque rien, enfin, papier d'identité, quelques bijoux, quelques photos, enfin, ce qu'on peut attraper en 5-10 minutes chez soi avant de partir. Et ce, jusqu'à la frontière française. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la géographie de ce coin-là, ils pouvaient y aller à pied en France, hein, puisqu'il y a le fameux pont qui s'appelle le pont international, maintenant, je ne sais pas comment il s'appelait à l'époque, qui passe donc de l'autre côté. Et dans ses bras de cette grand-mère, il y a un petit garçon de 4 ans, et c'est le papa de la narratrice.
De Léonore de Recondo.
Voilà. Et donc, 90 ans plus tard, l'autrice tente de découvrir et de comprendre ce passé et d'étudier les traces que cet événement a laissées dans la mémoire familiale, en fait.
Et justement, maintenant, il y a une raison particulière.
Alors, il y a une raison. Bah, le livre est sorti là, à la rentrée 2025, mais elle s'y attelait un peu plus tôt. Et Marcher dans tes pas, en fait, prend sa source dans un événement très concret. C'est la promulgation en 2022 d'une loi espagnole permettant aux décédants de républicains exilés de récupérer leur nationalité. Donc l'auteur, dont la famille paternelle a été déchue de cette nationalité espagnole en traversant la frontière, a entrepris les démarches pour obtenir ce droit. Et c'est ça qui déclenche, c'est comme si elle attrapait un petit bout de fil de ça. Et elle remonte un peu.
Ah oui, c'est tout récent.
Enfin, elle remonte, et c'est pour ça qu'elle remonte, mais aussi elle imagine. Il fait chaud dans cette cuisine, si chaud. C'est le matin et déjà tu transpires sur ton fourneau. Tu es inquiète depuis la mi-juillet. Maintenant, tu fronces les sourcils au-dessus de la casserole. De là où je suis aujourd'hui, un siècle plus tard, je me répète un siècle. Sans y croire tout à fait, je te vois. Je vois le mouvement de ton front, ce sillon, cette ride d'inquiétude qui ne se détendra plus. Sauf pour rire, parfois. Mais le rire est aussi une déchirure du visage, un coup de canif à la tristesse. Je suis sur ta clavicule, dans tes yeux. Sourcils froncés, tu tournes sans t'interrompre le mélange de lait, de sucre et de riz qui frémit dans le cuivre. Ce geste répétitif te fait du bien. Tu es comme hypnotisé par le tourbillon que creuse la spatule. Tu essaies de ne pas écouter les voix de tes frères assis autour de la table, à deux pas de toi, avec leur tasse de café froid. La politique, la politique, la politique, ça leur emplit la bouche depuis une semaine. Les attaques des franquistes, les Junker 52 qui du ciel bombardent sans discontinuer. Tes frères disent « Junker 52 », ils insistent sur le chiffre. Et toi ? Toi, tu ne comptes plus. Les enfants ont peur, le plus petit grimpe dans ton lit le soir et c'est toi qui te serres contre lui. Il a 4 ans, ton trésor, mon père. Je suis dans tes yeux, je suis ta ride du lion. Tu fermes les écoutilles, tu as déjà entendu tout cela. On est en 1936, la frontière française est quasiment fermée depuis le 8 août. Tu as pleuré des morts, les corps à corps qui ont eu lieu sur la crête de Punta au sud d'Irun, là où tu es né. Tu as consolé des enfants, des femmes, des veuves à présent. Tu fronces encore plus les sourcils, je vois comme tu t'agrippes au bois de ta spatule. Ton geste est plus raide. Quand tu veux qu'on te foute la paix, tu tournes le dos, tu fais face au fourneau et tu t'abîmes dans la contemplation des plats et que tu prépares. Je vois que ton geste est brusque. Sur ta clavicule, sur ton poignet, je vois comme tu t'accroches à l'ustensile en bois. Sait-on ce que réservent les jours ? Sais-tu ce qu'il y a d'éternel dans ton geste, que plus jamais tu ne l'accompliras dans ce lieu-là, dans cette maison ? Jamais, alors que tu t'appliques tant. Oui, de là où je suis, je le crois. Tu sais que ce geste est fondateur, fondateur de ton histoire, de mon histoire, de la nôtre. Une spatule, du lait, du riz, du sucre, de la cannelle et une casserole. Et dans les rues, la guerre civile, 1936. Dans les rues, la politique. Dans ta cuisine, la politique. Partout, les grandes questions. La République, les nationalistes basques, les soulèvements, les volontaires communistes français, André Marty, tes frères prononcent Andrés Marty. Ils en ont plein la bouche, frappent des poings sur la table de la cuisine, alors que le petit, ton trésor, mon père, se balance sur leurs genoux. Qu'est-ce qu'il entend, lui ? Qu'est-ce qu'il comprend ? Il est de nouveau dans tes jambes. Viens, on va voir les avions par la fenêtre. Va à la fenêtre, tu les verras aussi bien que moi. L'étreinte se défait, tu entends les petits pas qui courent vers le salon et bientôt ces exclamations. Ils sont là, ils sont là ! Tu as peur, tu te tiens à la barre en cuivre du fourneau. Tu as failli lâcher la spatule, t'écrouler. Un court instant, un voile noir sur tes yeux. Mais ici, chacun s'accroche. Tes frères à la table, ton fils à l'embrasure de la fenêtre, ton mari plus au sud, à Aranjuez. Tu éteins le feu. Les gestes quotidiens reviennent, tu te dis que si tu retrouves les gestes, rien ne disparaîtra. Tout est là dans le secret de cette répétition. Tu examines l'adhérence du riz sur la spatule, excellente, sans aucun doute. Le gâteau ne sera jamais aussi bon. Tu le sais, comme pour la dernière scène. Ça te traverse l'esprit, la dernière scène. La première pour moi. Tu vas chercher le plat en terre cuite, tu te figes au milieu de la cuisine. Tout le monde se tait. Les Junker 52 arrivent. La foudre, le feu dans le ciel, ils rasent les toits. Tu penses que la terre va trembler, que les fenêtres vont exploser. Un bref instant, il n'y a que le voile noir sur tes yeux et le tonnerre dans tes oreilles. Et puis ça passe. Tu te remets en mouvement. La vie, les gestes, la cuisine, le plat en terre. Tu le remplis de riz brûlant. Le petit, ton trésor, mon père, revient en courant vers toi. Ça sent bon. La suite de cette journée, dans sa vérité profonde, n'appartient qu'à elle. Ce jour lointain que je tente d'atteindre de si longues années après, je ne peux l'écrire qu'à travers l'invention des mots, le filet qu'il forme, agrippant dans ses mailles des bribes de conversations, de souvenirs. Ce qui est parvenu jusqu'à moi est une vérité emmaillotée, ici livrée. La chaise est renversée, le riz au lait est posé sur la table. Tes parents sont au deuxième étage de la maison. Ta mère, Magdalena, rejoint son mari qui lit dans leur chambre. Elle marche à petits pas, elle est terrifiée. Depuis le coup d'État, elle est terrifiée. Toi, tu es encore dans la cuisine. Tu t'essuies les mains. Tu t'apprêtes à rejoindre les enfants dans le salon. Tes trésors. Le plus jeune, 4 ans, mon père s'appelle Félix. Il faut bien le nommer. Quand j'écris les 5 lettres de son prénom, il devient personnage. Quelque chose de lui m'échappe et ne m'appartient plus. Et pourtant, par la grâce de l'écriture, il est sous mes yeux, vivant. Ça sonne. C'est à ce moment-là que ça sonne. Tu t'en souviendras après. Tu te souviendras comme ton bras gauche était appuyé sur le chambranle en fermant les yeux. Tu te souviendras même de la sensation sur ton épaule. Ça sonne. Tu entends des bruits de chaises dans la cuisine, un de tes frères se précipite vers la porte qui donne sur le petit jardin et la rue. Tu n'entends pas la conversation, elle est brève et pourtant, quelque chose bouge dans ton corps, s'altère. Ton cœur a compris ce que ton esprit n'a pas encore entendu. La porte d'entrée claque, afflux sanguin dans tes organes, inspiration haute, puis apnée. Tu entends ton frère revenir sur ses pas. Le monde d'avant est toujours là. Tu te retournes. Ton frère est hagard dans le couloir. Ses pupilles balayent l'espace de droite à gauche sans savoir où se poser. Tes 2 autres frères ont surgi de la cuisine et tes fils sont soudain dans tes jambes, accrochés à ton corps. Tu attends. Ton cœur a repris ses esprits. Il les irrigue. De la part de vous tous, il y a un long silence interrogateur vers celui qui porte la nouvelle. Il dit... On part. Il le dit toujours hagard. On part. Il le prononce une deuxième fois, il l'éructe. Quoi ? Tes frères à l'unisson. Ces salauds entrent dans toutes les maisons. On s'en fout qu'ils viennent. Un de tes frères se retrousse déjà les manches. Tu ne comprends pas. Il n'éructe plus, il hurle. Il prend son propre frère à la gorge, le plaque contre le mur. Tu ne comprends pas ? Il fusille. Silence. Tous les corps sont figés dans le minuscule espace du couloir. On part. Il le dit plus doucement, comme pour lui-même. On part. Silence. Les 3 frères hochent la tête. Tu caresses celle de tes fils. Il ajoute « On laisse tout ». Tu respires profondément. Ce dernier instant, ce dernier grand calme. Tu sais que quand tu bougeras, un mouvement irréversible s'amorcera. Celui qui éructait, hurlait, agressait, continue encore plus doucement. Tu sens dans tes veines une tranquillité glaçante. 10 minutes. On a 10 minutes. On part. On prend argent, bijoux, papier d'identité. Ton frère est à côté de toi maintenant. Il poursuit. Pas de valise. Ils ne nous laisseront pas passer la frontière, sinon. L'essentiel. ça se réduit à ça.
Une petite info sur la plage musicale que vous venez d'entendre. Ne la cherchez pas sur Deezer ou Spotify, vous ne la trouverez pas. Parce que Catherine a poussé le professionnalisme jusqu'à proposer un court extrait de Bach, écrit à l'origine pour une flûte traversière, et joué au violon par Léonore de Recondo elle-même.
Alors il faut dire qu'avec Magali, nous sommes allés écouter Léonore de Recondo à Chambord, qui est passée tout début février, je crois.
Début février, c'est ça.
Et elle était là avec son violon. Et c'est vrai qu'elle nous a conquises.
Tout à fait.
Et je me suis dit, il faut au moins passer un morceau joué par elle. Voilà.
Il faut bien chercher ce morceau. Hein,
parce que... oui, oui, oui. Il faut le mériter.
Oui, il faut le mériter. Pour le trouver, c'est...
Donc, pour revenir au roman, hein, c'est surprenant, non, comme début.
Absolument.
Bah, oui, en fait, on a l'impression que la narratrice parle directement à son aïeul.
Elle dit « tu ».
Oui, c'est étonnant. C'est ça.
Le livre est écrit... comme, enfin, une conversation, si on peut dire, parce qu'elle ne répond pas vraiment, mais elle l'imagine comme une conversation à travers le temps. Et elle rend hommage à cette grand-mère, Henriqueta, une jeune femme contrainte de fuir en quelques minutes la maison familiale d'Irun, donc menacée par les franquistes, hein, ce 18 août 36. Et cette rupture brutale qui la laisse sans rien, c'est vraiment l'élément déclencheur du drame, de l'exil, de la dictature, dont les effets se prolongent encore, justement, même dans le corps et dans l'esprit de la petite fille. Hein. Léonore est aujourd'hui avec la prise de conscience de la violence qu'a vécue sa famille. Parce que je crois que la chose importante dans ce roman, c'est qu'on arrive un peu à partager cette prise de conscience de cette violence. Parce qu'on l'entend, on peut dire, tous les jours à la radio, hein, toutes ces nouvelles de gens qui fuient leur maison. Mais on ne se rend pas compte à quel point c'est violent de tout abandonner comme ça. Quoi. Oui. Et le récit donc, suit ce mouvement de retour vers une origine marquée par la guerre civile et par la perte. Donc
Éléonore de Recondo va faire des démarches pour retrouver la nationalité perdue par sa famille.
Pourquoi revenir inlassablement sur ce 18 août 1936 ? Pourquoi, au mi-temps de ma vie, tourner et retourner cette terre faite de fantômes, d'exil et d'inconnus ? Je ne trouve pas de réponse précise, sauf la nécessité de chercher une certaine vérité dans l'enchaînement des éléments. En octobre 2022, une loi est promulguée en Espagne me permettant d'opter pour la nationalité espagnole. Cette loi s'appelle la Ley de Memoria Democrática, loi de mémoire démocratique. Elle stipule que peuvent obtenir la nationalité les enfants et petits-enfants de parents l'ayant perdu après avoir été contraints à l'exil pour des raisons politiques, idéologiques, de croyance ou d'orientation et d'identité sexuelle. Il y a d'autres cas de figure, mais seul celui-ci me concerne. En tant que fille d'exilée politique, j'ai le droit d'avoir la double nationalité française et espagnole. Les démarches se font en ligne et semblent assez simples. Cette possibilité m'ébranle. J'y avais déjà pensé lors de l'adoption d'une loi précédente par le gouvernement présidé par Zapatero, mais je n'avais pas entamé les démarches. Là, c'est différent. Mon père est mort et toute l'histoire de la famille se rappelle brusquement à moi. Mon fils aura bientôt 18 ans. Qu'est-ce que je lui transmets de là où l'on vient, de là-bas, de l'autre côté, de l'identité basque? Ça m'interroge et me bouleverse. Mon père n'a eu que brièvement la nationalité espagnole, de sa naissance en 1932 jusqu'à l'exil de 1936. Seulement 4 ans. Puis il reste apatride pendant plus de 40 ans. Il vit en France, il travaille, a des enfants, mais fait le choix de ne pas demander la nationalité, le choix de ne pas choisir. En étant apatride, il nie son pays de provenance et celui où il s'installe. Ne se reconnaître dans aucun, c'est supporter des années de complications administratives. Pourquoi ? Pour quelle sorte de loyauté et envers qui ? Mon père est resté coincé sur le pont, les poches pleines de confettis. Il a grandi, vécu, mais quelque chose de lui, un bout de son âme, son cœur, son esprit, est resté entre les deux rives. Il est naturalisé français dans les années 1970, avant ma naissance. Ma mère est française, je nais à Paris. La question de ma nationalité ne se pose donc pas. Jamais, jusqu'à aujourd'hui. Nationalité française, pays de résidence, papier d'identité ad hoc, le français est ma langue maternelle. Et n'est-ce pas la langue qui fait le territoire de l'identité ? Mon père parle basque avec ses parents, espagnol avec ses oncles, français avec ses frères, ma mère et moi. Le traumatisme de jongler avec plusieurs idiomes est incrusté en lui. Il me décrivait souvent la confusion qu'engendrait le plurilinguisme. Parfois même une peur panique. Surtout pendant la période 1939-1945 où, réfugié dans les Landes, il devait s'intégrer, se faire discret, voire invisible. La litanie habituelle des réfugiés, s'adapter, être caméléon, n'avoir l'air de rien. Son père meurt en 1949, avec sa mère qu'il appellera toute sa vie Amat Kso, sonorité bizarre à mes oreilles d'enfant, il parlera toujours en basque, sa seule interlocutrice régulière. Sa langue maternelle portait parfaitement et exclusivement son nom. Elle restera dans ce giron sans jamais s'en extraire, sans jamais m'être transmise. Quand je lui demandais de m'apprendre l'espagnol ou le basque, ma mère insistait aussi, il égrenait quelques mots autour de la table du dîner, le plus souvent en espagnol, très rarement en basque. Rien de constant, de construit, de voulu. Quelques mots autour de la table familiale, le reste bloqué en lui. Pourquoi ? Par loyauté à sa terre d'accueil ? Par paresse ? Parce que ses langues le plongeaient à nouveau dans la plaie de l'exil ? Sûrement un peu détroit. En laissant l'espagnol et le basque à leur place, c'est-à-dire dans le passé, un passé douloureux, il nous permettait, à ma mère et à moi, de représenter l'avenir. Ou du moins un présent paisible, pacifique. En français. La langue comme territoire de paix. Pourtant, j'insistais, parle-moi en basque, parle-moi en espagnol, avec la pugnacité et la curiosité des enfants. J'avais envie de découvrir ces lieux qui m'étaient inconnus, mystérieux, incompréhensibles. Je sentais qu'ils cachaient quelque chose de mon père qui m'échappait. Et voici qu'aujourd'hui, sur le site internet du consulat d'Espagne en France, une loi stipule que j'ai le droit de devenir espagnole. C'est écrit noir sur blanc. Je suis prise d'une grande fébrilité. Oui, je vais le faire. Cette démarche, comme une forme de réconciliation avec l'Espagne, ce qui a été ôté aux générations précédentes, me sera rendu. Je ne me sens pas plus espagnole qu'hier, non, mais c'est une réparation et elle me semble soudain indispensable. Cette nationalité réparera l'injustice. Elle viendra réunir les deux parties d'une guerre civile que je porte en moi. Mon père est passé d'espagnol à apatride, puis français. Je suis née française et m'apprête à demander une double nationalité à l'âge où lui en avait acquis finalement une. Je démarre les démarches en ligne, décliner son identité, valider, fournir les documents l'attestant, valider, acte de naissance, le mien, celui de mon père, de ma mère, valider, copie du livret de famille, valider, justificatif de domicile, valider, formulaire divers, valider, 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 puis une attestation obligatoire. Document justifiant l'exil. Je ne peux pas valider. Je n'ai rien, sauf ce qu'on m'a raconté et des photos. En 1936, en pleine guerre civile, il n'y avait aucun papier attestant du passage de la frontière, sauf leur corps passant un pont.
Je suis le pont d'une génération l'autre. Je suis l'histoire qui n'est pas écrite, la mienne et celle de mon fils. Je suis leur histoire, pas de papier sauf des mots, pas d'écrit, sauf un monde intérieur.
Forces from the sidelines. Against time, tactics to deplete, only to face a certain defeat. Hey now, it's over now. If we're the ones to cause a storm.
Face à la demande d'un justificatif d'exil, un document impossible à fournir pour des réfugiés fuyant la guerre civile, une profonde révolte en fait la prend. Comment prouver qu'ils ont vécu l'horreur de la fuite face à la mort et l'humiliation des exilés qui débarquent les mains vides dans un autre pays? Et en fait, tout le long du roman, elle interroge les raisons de ce geste et la part de fantôme qu'il réveille.
Donc roman par roman. C'est un peu étonnant son mélange d'écriture. Là. C'est de la prose, c'est de la poésie, c'est des fois je, des fois tu.
Oui. En fait, le livre suit l'énergie qu'elle ressent. Oui, tu as raison, et c'est un roman, mais est-ce que cela
et important de le trancher. En fait, elle décide d'écrire autrement, en suivant la vérité qui est la sienne. Ainsi, elle trouve une liberté avec la forme qui s'est imposée à elle. La poésie, parce que là, j'en ai lu très peu, mais elle parle de « je ». Enfin, elle dit « tu » à sa grand-mère, elle lui parle directement, mais elle parle de « je » aussi, comme si elle était un personnage de cette histoire. Enfin, elle abolit la distance temporelle, si je peux parler faisant du chiquet, mais ils ont l'air d'être très proches. C'est très curieux. Après, surtout que dans le livre, on voit qu'enfant, elle rencontre sa grand-mère et que j'imagine qu'elle a eu très peu des chances. C'est une femme... durcie parce qu'elle a vécu, dure, assez... Donc c'est très curieux, quoi. Et je pense que c'est quand les gens disparaissent qu'on se pose toutes les questions. Malheureusement, c'est en général classique. Oui. Donc elle est... Pour elle, c'est le seul moyen d'exprimer ce qu'elle ressentait alors. Donc elle est à la fois libre et elle est contrainte par la narration. Et moi, je trouve que c'est le pouvoir de la littérature qui permet de mêler passé et présent. Donc il y a un roman dans le sens où il y a une liberté totale. Mais on n'est pas roman, voilà. Oui. D'ailleurs, elle ne se dit pas romancière, elle dit « elle écrit ». Voilà, c'est tout. Sa seule arme, c'est l'écriture, donc elle va écrire cette histoire. Et la littérature, c'est la trace, l'évocation, c'est rendre cher à ceux dont on parle. Les temps se mêlent. Et grâce à la littérature, enfin tout le long du livre, on se balade à Irun, car elle y va plusieurs fois, elle vit des choses, elle va dans des choses très basiques, elle va dans un salon de thé, et elle imagine sa grand-mère avec son père tout petit, enfin il y a toute cette chose, elle essaie de rapprocher ses temps, de voir ces paysages qu'ils ont vus, même si la ville a été tellement bombardée qu'il ne doit pas y rester grand-chose. Voilà, et on repasse ce pont entre l'Espagne et la France. Et il y a d'ailleurs... Tu parles aussi de poésie et de l'importance de la poésie. Au moment où elle parle de cette fuite, elle évoque en même temps la mort de Garcia Lorca, parce qu'il a été assassiné la nuit même de leur fuite, ce 18 août. Et son assassinat, donc, c'est aussi l'assassinat de la poésie et de la littérature.
Oui, c'est très symbolique. Et ça se passe donc à quelques kilomètres de la France, au sud de l'Europe et du monde.
Ben, le monde entier, enfin, surtout l'Europe, voyez cette... ce cataclysme qui se passait à côté d'eux, cette tragédie. Alors, que pensaient les Français qui voyaient ça de l'autre côté de la frontière ?
Oui.
J'ai retrouvé trois dessins de George Scott publiés dans l'hebdomadaire L'Illustration, daté du 29 août 1936, entre le début des hostilités à Irun et le grand incendie du 12 septembre. Mes grands-parents, mon père et ses frères sont à Hendaye depuis une dizaine de jours. Sur le premier dessin, on voit des personnes installées sur un terrain en hauteur au bord d'une falaise sur l'un des points les plus élevés de la région, la Croix des Bouquets, côté français. Au loin, la mer et les montagnes, côté espagnol. Sous des parasols, des badauds et des touristes, certains assis à l'ombre d'un arbre pour se protéger du soleil de l'été. L'ambiance n'est pas à la guerre, elle est tranquille, bucolique. Ils sont une vingtaine à regarder vers l'Espagne. Des familles, des enfants qui s'amusent, la plupart avec des jumelles, pointant le doigt dans la direction du massacre. On commente. « T'as vu ?» Pour ceux qui les ont oubliés, un homme propose des jumelles à la vente. « Oui, vous verrez mieux, terrifiant, ce qui se passe en face, n'est-ce pas ?»« Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'on est venu voir. » Bien installé sur la bonne rive, on a chaud. On se désaltère, on s'évente, on regarde encore, on rentrera ensuite chez soi tranquillement pour raconter aux voisins ce qu'on a vu. Des flammes, des tirs d'obus si proches. Mais on reviendra sain et sauf. C'est en face, pas ici. Ça n'arrivera pas jusqu'à nous. Ça, le monstre, ça, la guerre. Et pourtant, ça arrivera. Mais plus tard, on ne le sait pas encore. Pour l'instant, on a eu un petit frisson, délicieusement délicieux ce petit frisson dans le bas du dos. Et si c'était nous, tu te rends compte ? On commente entre soi, on a envie d'avoir peur ensemble. Attention à l'insolation, hein. Mets-toi sous le parasol, mon chéri. On reviendra demain. Ces illustrations me révoltent, parce que je sais le drame qui se joue au bout de leurs jumelles.
C'est le tourisme de guerre, comme il y en a toujours. Ceux qui veulent prendre des photos, y être sans se mouiller, ceux qui se font de l'argent sur le malheur des autres. Comment ne pas penser à toutes les images que nous regardons sur des écrans, assis dans le métro avec nos téléphones portables? Nous avons toutes les guerres à portée de main et de vue. On allume, on éteint, plus ou moins affecté, plus ou moins concerné. Au début des conflits, les images affluent, puis elles se tarissent, voire disparaissent. On ne s'y intéresse plus, on oublie, on pense à autre chose, on zappe. Pourtant, ce sont toujours les mêmes femmes, les mêmes enfants qui traversent un pont, une frontière ou bien la Méditerranée. Ce sont les mêmes hommes qui meurent pour rien, enrôlés dans des conflits qui les dépassent. Je suis le loueur de longue vue. Je suis la femme assise sur la falaise. Je suis celles et ceux qui regardent les tirs d'obus, qui rentrent le soir chez eux, s'allongent sur leur lit avec la conscience trop tranquille.
Il y a le loueur de longue vue et puis il y a les autres. Ils ne sont pas la majorité, mais ils sont assez pour faire brigade. Pour avoir l'espoir fou de s'unir et ensemble de défendre la liberté de la République contre le fascisme. Ils sont jeunes, ils sont innocents, elles sont fières, elles se révoltent. Femmes et hommes forment les brigades internationales. Les plus nombreux sont les Français. 25 000 sont les 60 000 combattants en juin 1937. Je cite les chiffres parce qu'ils sont éloquents. Ces volontaires étrangers sont aussi italiens, allemands, anglais, russes. Ils viennent de 53 pays. Tous ont décidé de s'engager du côté de la République dans cette guerre civile espagnole. Guerre fratricide donc, qui pourrait ne pas les concerner. Et pourtant, ils sont là, elles sont là. Ils sont la place de l'espoir. L'espoir, c'est cette jeunesse.
Dolores Ibarruri, la Passionaria, préside le défilé organisé dans les rues de Barcelone pour le départ des brigades internationales le 15 novembre 1938. Elle dira ceci. Quand auront passé les années et que les blessures de la guerre auront cicatrisé, quand la mémoire obscure des jours tristes et sanglants se changera en un présent de liberté, d'amour et de bien-être, quand les sentiments de haine auront disparu et quand tous les Espagnols se sentiront orgueilleux d'une patrie libre, alors parlez à vos enfants. Parlez-leur des brigades internationales. Racontez-leur comment, traversant mers et montagnes, franchissant des frontières hérissées de baïonnettes, ces hommes arrivèrent dans notre patrie comme des croisés de la liberté. Aujourd'hui, ils s'en vont. Mais beaucoup d'entre eux, des milliers d'entre eux, restent ici avec la terre d'Espagne comme linceul. Et tous les Espagnols se souviennent d'eux avec la plus profonde émotion.
A quererme, yo juego a que te creas.
Du récit familial et historique, le roman résonne assez puissamment quand même avec l'actualité mondiale.
Oui, 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 l'autrice souligne la répétition quotidienne de l'exil forcé pour des raisons politiques, rappelant que l'histoire de sa famille peut arriver à n'importe qui et n'importe quand. Donc il faut qu'on prenne conscience de cela.
Et tout ça avec une langue spécifique qui mêle des écritures différentes.
Oui, un parti pris hybride en fait, une mémoire familiale, imaginaire romanesque, regard poétique et tout ça se combine sans séparation nette entre l'évocation intime et la construction littéraire. Dans les choix qu'on a fait là, c'est peut-être pas très visible, mais tout son texte est émaillé de passages poétiques. Donc elle met en langue poétique tout ce qu'elle raconte. Il y a des faits très, très stricts comme ce qu'a lu Magali là, sur les règles, la loi, et tout d'un coup elle apporte une autre dimension en traduisant ça de façon poétique. Donc c'est très fort.
Oui, oui, c'est un très beau livre.
Voilà,
c'est une belle découverte.
Oui, c'est une belle découverte. Et puis elle met en lumière, disons, avec une grande tendresse, des vies ordinaires. Ce sont des vies ordinaires, il n'y a pas de grands héros.
Oui, c'est malheureusement.
Voilà, fracassé par l'histoire et elle nous force aussi à ne pas les oublier.
Très bien, bien merci de nous avoir fait découvrir ce roman, on va l'appeler roman.
Hein. Ouais, ouais, oui, bien sûr.
Tu peux nous en redonner les références ?
Oui, alors avant ça, je vais quand même dire, parce qu'elle est incroyable, en fait, en cette rentrée 2025, elle a publié 3 ouvrages.
Ah oui, il est vraiment prolixe.
Donc, Marcher dans tes pas, celui qu'on a présenté aux éditions de l'Iconoclaste, mais également Goya de père en fils, donc là aussi, c'est chez Vernier, donc un petit peu plus soutenu comme édition, sur son père. Donc toujours son père. Et en plus, mais là c'est anecdotique parce que ce n'est pas lié à sa famille, elle vient de faire paraître aux éditions du Musée d'Histoire Naturelle un livre jeunesse intitulé « Alma et la Vénus d'Ivoire », illustré par Maxime Sudol. Voilà, et là c'est un petit clin d'œil parce qu'il y a le Salon du Livre à Saint-Gervais, quoi. Mais voilà, ça n'a rien à voir avec sa famille. Mais c'est pour dire qu'elle est incroyable dans tout ce qu'elle peut faire.
Très bien, bien merci à toutes les deux pour nous avoir fait partager ce coup de cœur. De très bonne lecture à nos auditeurs et à nos auditrices. Et au mois prochain.
Au revoir. Au mois prochain. Au revoir.
Au revoir.